Petite précision aussi sur la Belgique, sur l'origine et la configuration, disons, politico-géographique. Hein. Eh bien, on sait qu'il y a trois provinces, la Flandre, qui est née néerlandophone, hein, voilà, parle hollandais, quoi, et la Wallonie, alors la Flandre au nord, la Wallonie au sud, qui est francophone, et puis Bruxelles capitale, qui est comme une enclave dans la Flandre, et qui est officiellement bilingue, mais qui parle plutôt français, hein, plutôt francophone dans la réalité, hein, voilà. Et donc on sait qu'il y a toujours qu'il y avait cette querelle, puisque c'est un État fédéral et ce risque d'éclatement, ces conflits linguistiques et puis aussi économiques, politiques. Voilà. Et donc c'est le souverain quand même qui fait l'unité. C'est la famille royale qui fait vraiment l'unité de cet État fédéral qui l'empêche d'éclater. Donc Léopold III monte sur le trône, donc à la mort de son père, à la mort du roi soldat. Eh bien, le 17 février 1934, voilà. Et donc, je l'ai dit, il est veuf le 19 août 1935 à la mort d'Astrid dans un accident de voiture. Voilà. Et donc, eh bien, il veut... on est déjà entre les deux guerres et il y a déjà des bruits de bottes, on le sait, des menaces. L'Allemagne, c'est le régime nazi qui s'installe. En 1933, Hitler donc prend le pouvoir. Voilà. Il veut Léopold. Sa volonté, c'est de maintenir la Belgique hors de tout conflit. Donc, il veut défendre et affirmer la neutralité de la Belgique. Voilà. Mais c'est une monarchie constitutionnelle. Hein. Donc le roi règne sans gouverner, mais il a quand même des pouvoirs constitutionnels. Par exemple, à la différence de l'Angleterre, eh bien, le roi en Belgique préside le Conseil des ministres. Voilà. Il a, semble-t-il, un droit de parole plus important que celui, par exemple, du souverain anglais, hein, en Angleterre, qui est soumise à une obligation de réserve absolue, sauf peut-être cas exceptionnel, risque de guerre civile, où le souverain anglais joue son rôle d'arbitre. Mais le roi des Belges, lui, prend position, peut parfois intervenir. Il ne gouverne pas, mais il a quand même un certain impact. Sur la vie politique. Et on verra par exemple que Baudouin, ça c'est l'histoire récente, s'était abstrait un petit peu du pouvoir au moment du vote de la loi sur l'avortement, très catholique, voilà. Ça avait fait débat à l'époque. Bon. Donc, Léopold III, frappé par le deuil de son père et de son épouse, on a dit qu'il a une volonté pacifiste, voilà. Une volonté de paix. Il veut maintenir la souveraineté de la Belgique, son intégrité, la maintenir hors de tout conflit. Voilà. Mais il sent bien que la menace vient de l'Allemagne. Hitler, en 1936, envahit la Rhénanie. Et donc, il sent aussi, peut-être Léopold, que la France est faible. Il perçoit que s'allier à la France n'est pas... l'allié n'est pas très solide, voilà. Probablement, il le perçoit. Et donc... Il obtient d'ailleurs une déclaration d'Hitler, une déclaration du Reich, par laquelle eh bien, l'intégrité de la Belgique est garantie. Mais on sait ce que valent les promesses d'Hitler. Voilà. Et donc, la guerre est déclarée le 3 septembre 1939. Et réaffirmation de l'indépendance de la Belgique. Mais tout ça va voler en éclats, on le sait. Le 10 mai 1940, on sait bien qu'Hitler est un super gangster et qu'il se fout de ses promesses et de ses garanties. La diplomatie l'intéresse peu. Il fonce, il attaque. Le 10 mai 1940, eh bien, la Belgique est envahie. Hein, voilà. Et bon, Léopold III va avoir une attitude, comment dire, il se met en uniforme, puisqu'il est commandant suprême des armées, hein, au moins théoriquement. Il se rapproche des lieux des combats, quoi, et il sent bien que l'effondrement est proche. La petite Belgique ne résistera pas longtemps. Et donc, effectivement, l'effort d'Ebène et d'Emel, E-M-A-E-L, tombe, et le canal Albert est franchi. Alors, ce sera un combat héroïque de 18 jours, mais il va demander la capitulation, donc dans des circonstances conflictuelles. Capitulation, on le sait, qui sera suivie de 4 ans d'occupation, la Belgique, comme pour la France. Voilà. Et alors cette capitulation, elle est décidée après une entrevue tragique, une entrevue de nuit au château de Winnendal. Hein, voilà. D'ailleurs, il rencontre préalablement sa mère, on l'a dit, la reine-mère Elisabeth, voilà. Il la rencontre préalablement pour peut-être solliciter ses conseils. Et puis, entrevue avec le gouvernement au château, je l'ai dit, de Winnendal, où le premier ministre, le comte Hubert Pierrelot, hein, le ministre des Affaires étrangères, Spaak, et puis le ministre de l'Intérieur, Van der Porten, se réunissent avec le général Denis, ministre de la Guerre. Alors, conflit où, les avis divergent, en fait. Le roi considère que, à l'évidence, à juste titre, que la Belgique est vaincue et qu'il faut demander la capitulation. Voilà. Obtenir peut-être des conditions de capitulation honorables, mais bon, il va falloir cesser le combat. Et décision principale qu'il va prendre, hein, pour son choix personnel, il décide, lui, de rester en Belgique. Il considère que là est son devoir, il veut être un peu comme un bouclier, hein, face à l'ennemi, un bouclier pour son peuple peut-être. Il veut surtout ne rester auprès de son armée. Il considère que partir, comme d'autres le font, hein, comme de Gaulle le fera en France, et puis par exemple la reine des Pays-Bas, la reine Wilhelmine, et son gouvernement quittent la Hollande aussi dès l'invasion et se réfugient en Angleterre, où ils animeront par... Il y aura des discours à la radio aussi de la reine des Pays-Bas, un peu comme de Gaulle, qui galvaniseront la résistance. Et lui reste. Mais il reste, mais il se déclare prisonnier. Voilà. Il se déclare empêché d'exercer ses fonctions. Il se déclare en quelque sorte incapable. Mais il reste physiquement, mais un roi qui n'exercera aucune fonction. Et donc là est la rupture entre le roi et son gouvernement, car le gouvernement, je l'ai dit, le premier ministre, eh bien, le comte Hubert Pierrelot et les quelques ministres présents décident, eux, de partir, de fuir. D'abord en France, c'est ce qu'ils vont faire, il y aura une espèce d'errance en France, notamment à Limoges, on le verra, où ils vont se rassembler avec ce qui reste un peu du Parlement pendant cette confusion de l'Exode. Donc, eux partent. Et estime que le roi devrait aussi partir. Alors les uns voient, le roi voit ça comme une fuite, et le gouvernement voit ça au contraire comme un exil pour animer la résistance de l'extérieur, pour ne pas tomber aux mains de l'occupant nazi. Et donc je l'ai dit, il se constitue prisonnier. Alors le général Michels, qui est le chef d'état-major de l'armée, le général Denis étant ministre de la guerre, le général Michels, chef d'état-major, délègue le général Rousseau auprès de von Reichenau, qui est le chef de la 6e armée allemande. Et donc, sur ordre d'Hitler, interrogé par von Reichenau, c'est une exigence de capitulation sans condition. Et donc, capitulation sans condition, cessez-le-feu intervient le 27 mai 1940. Alors, le roi, en ce moment, se trouve à Bruges. Et de Bruges, à l'initiative et sur ordre du chef de la 6e armée, Reichenau, donc il va être transféré au palais de Laeken. Bruges, c'était en Flandre occidentale. Et donc... où il se trouvait auprès de sa mère, Elisabeth, de son frère Charles, etc. Et donc il va être transféré au palais de Laeken, au palais royal, mais prisonnier ou tout au moins en résidence surveillée. Et donc la capitulation, cessez-le-feu, et capitulation officielle le 28 mai 1940, la Belgique. La petite armée belge, après 18 jours de combat héroïque, dépose les armes. Et donc on a là un roi prisonnier dans son palais, et où il se trouve avec ses enfants, avec Baudouin, Albert et Joséphine, le 29 mai 1940. Et pendant cette période, il va se marier, il va se remarier. Bon, c'est une anecdote privée, si on peut dire. C'est peut-être une influence, forcément, parce que bon, l'épouse du souverain a toujours une influence. Mais là, il épouse Mademoiselle Baels, Liliane Baels, ou Marie-Liliane Baels, qui est fille d'un ministre, ex-ministre gouverneur de Finlande occidentale, et qui est la gouvernante des enfants royaux. C'est peut-être l'amour qu'elle témoigne aux trois enfants qui ont une dizaine d'années, hein, donc bien sûr à l'époque, qui fait que bon, ils s'attachent et l'épouse. Le mariage est célébré discrètement, bien sûr, en pleine occupation. Roi prisonnier, on l'a dit, réalisation surveillée le 11 septembre 1941. Et c'est un mariage en fait morganatique, c'est-à-dire que, eh bien, elle n'est pas reine. Elle sera l'épouse du souverain, mais elle n'aura pas le titre de reine. C'est un mariage discret. Trois enfants naîtront de cette union, d'ailleurs, qui seront princes royaux, bien sûr, de ce second lit, en 42, 51 et 56. Voilà. Donc, on est dans cette situation d'un roi empêché, qui s'empêche lui-même d'exercer toute fonction, et qui reste quand même, ça reste une situation ambiguë, et qui sera peut-être mal comprise, et là il signe un peu, dès lors, cette attitude un peu, qui peut être interprétée de différentes façons, et qui il ne suit pas ce qu'ont fait les autres souverains, la grande-duchesse du Luxembourg aussi, je parlais de la reine des Pays-Bas, etc. On pourra le considérer comme peut-être complice, ou voilà. Et puis cette capitulation qu'il a acceptée, qu'il a voulu, tout ça fait que, eh bien, il signe sa prochaine, à la fin de la guerre, sa chute, on va dire, et sa mort politique, si on peut dire, voilà. Donc, il refuse de constituer un gouvernement, à la différence de Pétain. Donc, un gouvernement qui serait soumis, bien sûr, sous la botte des nazis. Et donc là, il devient carrément prisonnier parce qu'il irrite aussi les nazis, il irrite Hitler. Et donc, c'est l'arrestation de la famille royale, alors pure et simple, par les SS, avec son épouse et les enfants, le 7 juin 1944. Et ils sont déportés en Allemagne. Pas dans un camp, hein, rassurons-nous, dans une forteresse Hirschstein sur Elbe, voilà, en Allemagne. Et puis, avec la progression des alliés, puisque 1944, c'est le début de la fin, hein, c'est même vraiment la fin, eh bien, ils seront libérés par les armées américaines à Strobl, où ils avaient été déplacés en Autriche. Ils seront libérés en juin 1940. Enfin, ils avaient été déplacés en juin 1944. Ils seront libérés d'ailleurs à la date du 8 mai 1945, date de la signature de l'armistice, par la 7e armée américaine, les généraux Patch et Eslip. Donc, dès lors, tout devrait paraître simple, a priori, dans la liesse de la libération. Le souverain. Malgré tout courageux et puis déporté, donc aucune ambiguïté comme pour Pétain. Alors la Pétain, c'était pas une ambiguïté, c'était une collaboration réelle avec Laval, mais là, déporté, arrêté, enlevé par les Allemands, eh bien on pourrait supposer qu'il va revenir triomphalement en Belgique. Il n'en est rien, il y aura dès lors un problème, le problème du retour du roi. Un vrai problème royal qui va se poser et qui va diviser la Belgique. Donc nous allons le retrouver, ce problème du retour et cette quasi-guerre civile qui va diviser les Belges. Nous le retrouvons après, nous retrouvons Léopold et sa famille, ce malheureux souverain, et nous le retrouvons dans leur épopée dramatique après la pause musicale.